France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Les grands-parents avaient un certain nom, leurs enfants un autre nom, les petits-enfants portent encore un autre nom. Donc, on change de nom. On le traduit, on le transforme. Qu'en fait-on et pourquoi? Des noms difficiles à prononcer, à franciser donc. Et une fois le nom changé, peut-on le reprendre? Et là aussi, pourquoi? L'histoire peut être simple, elle est souvent compliquée. Rediffusion d'un documentaire proposé dans la Fabrique de l'Histoire et signé Séverine Liattard dans une réalisation de Séverine Cassard. Première diffusion sur France Culture le 27 septembre 2011.
Formidable, hein, cette voilà, c'est Chava Alberstein, Eufenweg, Städtebaum, sur la route, il y avait un arbre, il y a un arbre. C'est mon histoire, j'allais dire, c'est l'histoire d'une partie de ma famille ashkénaze, donc ça m'évoque mes racines, cette identité d'un ailleurs géographique, la Pologne, mes grands-parents maternels.
Il m'arrive parfois de plus trop savoir où j'habite en fait, c'est ça le truc. Je sais plus trop où j'habite, ouais, des fois. Entre les noms, les langues que j'ai entendues à la maison, c'est cosmopolite quoi, c'est vraiment... À la maison, j'ai entendu du yiddish, j'ai entendu de l'hébreu, j'ai entendu de l'espagnol, j'ai entendu de l'anglais, du français. Mes parents nous racontaient les voyages, les différents voyages qu'ils ont fait, les traversées, les endroits où ils ont habité. J'ai l'impression d'être dans un entre-deux, quoi. C'est une zone d'interstice. Et c'est glissant.
Mon grand-père, il est né Feinzilber. Mon père est né Feinzilber. Moi, je suis né Fazel. Cherchez l'erreur.
Mais ils étaient contents de s'appeler Fazel, nos parents. Donc, tes grands-parents, ils étaient contents. Ils étaient contents d'être français. Ça, c'est important. Donc, le fait d'avoir un nom comme ça facile, ils étaient contents. Ils allaient à l'hôtel, Fazel. Ils avaient un accent. Alors, une fois, il y a un monsieur qui leur dit : vous êtes canadien ? Il a dit : oui, on est canadien. Vous êtes alsacien ? On est alsacien. Vous avez un accent.
Je ne voulais pas faire disparaître mon nom complètement. L'avocat me dit, écoute, tu devrais traduire ton nom, c'est un joli nom. Finkelstein, en allemand textuel, Fink c'est un oiseau, Stein c'est pierre. Je dis non, je vais garder quand même une partie de mon nom pour la suite de ma génération. Et c'est comme ça que je me suis fait appeler Finel, on a supprimé le Stein et le K, et puis voilà. D'autant plus qu'à l'époque, c'était écrit à la polonaise, à l'orthographe polonaise, avec un Z, le Z faisant che, et le I c'était un J, alors fallait écrire F-I-N-K-I-E-L-S-Z-T-E-J-N. Vous voyez un peu la facilité. Alors c'était une des raisons pour laquelle j'ai voulu franciser ce nom. Voilà, l'histoire est très simple.
Du changement de nom au renom.
Quand on se présente maçon, je me présente comment ? Moi, quand quelqu'un me donne son nom, je peux imaginer. Bon, parfois en fantasme, hein, parfois ce sont des fantasmes. Mais quand même, ça sonne forcément. Donc moi, j'ai l'impression de pas sonner. Du coup, on m'identifie pas. Voilà, j'aimerais peut-être qu'on m'identifie. Qu'on sache qu'il y a des traces de géographie. Voilà, qu'il y a une géographie. Et sans ça, effectivement, on voit rien. C'est-à-dire que quand je me présente maçon, on voit rien. Alors parfois c'est pratique, hein, pour tout vous dire. Parfois quand je soupçonne quelqu'un d'antisémitisme, j'ai jamais moi été victime, jamais, jamais d'antisémitisme. Mais ma meilleure amie qui s'appelait Cohen, on lui a dit ça de juive. Et moi on me l'a jamais dit, forcément. Donc d'une certaine manière c'était une bonne planque. Mais sinon, nous sommes juifs même sans les noms, c'est vrai, bien sûr. Mais malgré tout, quand même, ce nom nous rattache.
Le nom classe renvoie à une généalogie et une histoire. Il dit parfois d'où l'on vient, où l'on est, à quel milieu l'on appartient. Il pose, nécessairement, des problématiques identitaires. Après la guerre, 10 000 juifs, français environ, ont demandé à franciser leur nom. Et l'État a reconnu la consonance israélite comme raison légitime. Le désir de se prémunir de tout regain d'antisémitisme, de favoriser une intégration ou de simplifier des noms difficiles à prononcer ou à écrire pour des Français, ont motivé la démarche de ces familles. Aujourd'hui, certains héritiers de noms changés souhaitent reprendre leur patronyme d'origine. Si la loi française autorise effectivement à franciser son nom, l'inverse est en revanche extrêmement difficile, au motif de l'immutabilité du nom et de l'impossibilité d'adopter un nom à consonance étrangère. Récemment, un collectif s'est créé pour plaider devant le Conseil d'État la possibilité de remonter le temps.
Mes parents sont venus en France en 1933.
Lucien Finel.
Venant de Varsovie, où moi-même je suis né à Varsovie, parce que le régime existant à l'époque était carrément d'extrême droite. C'était dirigé par un certain colonel Beck, qui était très proche des nazis d'ailleurs. Ce qui a fait que mes parents sont partis pour ne pas voir leurs enfants subir ce climat tendu que l'on vivait dans les villes polonaises. Sur le parcours de l'école domicile, nous étions souvent lapidés par des garçons plus âgés. Et puis les organisations de jeunesse juive s'étaient formées et venaient souvent attendre des groupes d'enfants juifs à l'école pour les accompagner à leur domicile. Alors tout ce climat était absolument détestable. Mon père était un laïc, était juif mais pas religieux, ma mère également. Et puis moi, j'ai acquis des notions de judaïsme en venant à Paris, dans un quartier qui est le Marais, qui était peuplé de beaucoup de familles juives immigrées. Et c'est là que j'ai pris conscience de mon état, puisque je reviens un instant sur ma première enfance, lorsque mon grand-père, qui était un homme religieux et très pieux, avait voulu me donner un enseignement hébraïque, je le refusais en disant « mais moi je suis polonais, je suis pas juif, je suis polonais bon. ». C'était une réaction d'enfant en raison du milieu scolaire dans lequel je vivais. Et puis notre arrivée en France en 33, mon père en 33 avec ma sœur et moi en 34 avec ma mère, j'ai donc traversé les frontières de la Pologne et de l'Allemagne à 6 ans, avec un faux passeport, avec un nom purement polonais. En France, c'est devenu Lucien, mais je suis né Lolek. Mais Lolek Finkelstein, vous savez, il faut être germanophone pour le prononcer correctement. Et lorsqu'on m'a inscrit à l'école communale, les maîtresses ou les maîtres, c'est comme ça qu'on les appelait dans le temps, m'appelaient Frankenstein, n'importe quoi, ils n'arrivaient pas à lire ce nom correctement. Je me souviens quelques années plus tard, lorsque je parlais un français correct, et mon père pas encore, je l'accompagnais à la préfecture de police. À 5-6 heures du matin, il y avait déjà une queue de quelques centaines de personnes pour le renouvellement de sa pièce d'identité ou pour la prolongation de son titre de séjour. C'est comme ça que ça s'appelait exactement, je crois. Et puis on arrive à la guerre. Le 1er septembre 1939, la guerre éclate. Il s'engage immédiatement dans la Légion étrangère, parce que en tant qu'étranger, il ne pouvait pas s'engager dans l'armée française, c'était la loi. Et ayant déjà un livret militaire polonais bien rempli, il était sous-lieutenant à 20 ans de la garde polonaise, c'était un truc, hein, c'était comme la garde républicaine. Hein. Et il est envoyé immédiatement au front, sous le nom de Nathan, de son prénom Finkelstein, un prénom biblique juif, qui d'ailleurs est également protestant aussi. Bon, et alors, il a été mobilisé durant toute la durée de la guerre, démobilisé lorsque les Allemands sont arrivés, bien sûr, par les services de Vichy déjà, et puis arrêté le 13 mai 1941. Je venais juste d'avoir 13 ans. 5000 juifs de Paris, le 13 mai 41, reçoivent une convocation dans la préfecture de police pour contrôle d'identité. Et il était convoqué le lendemain à la mairie du 4e arrondissement. Nous habitions le 4e arrondissement. Et on lui demande ses papiers. Il y avait trois tables de cantine avec des gardes mobiles français. C'était pas des Allemands, hein. Des gardes mobiles français installés derrière. Tes papiers. Moi, du haut de mes 13 ans, j'étais déjà choqué qu'on tutoie mon père comme ça, délibérément. Moi, j'étais choqué. Bon, alors il sent venir le coup et il sort son livret militaire français, qui était bien rempli. Hein. Et le gendarme prend le livret militaire, il le déchire en deux et le jette dans la poubelle. Et il dit à mon père, le tutoyant toujours, « Je t'ai demandé ta carte d'identité. » Il n'avait plus le choix, il sort sa carte d'identité, il y avait le tampon juif, parce qu'il y avait eu un recensement des juifs précédemment. Et il est là, et on lui dit « Va-t'en dans la cour avec les autres ». Il y avait déjà 100 ou 200 hommes jeunes, en général, dans la cour. Moi, je restais avec lui. Et vient un gendarme qui me prend par le col, qui me donne un grand coup de balle dans l'arrière, et me dit « Toi, le morpion fiche le camp ». Il a été emmené dans le camp de Pithiviers et puis direction Auschwitz. Donc après, plus aucune nouvelle. Et puis il n'est jamais revenu. J'allais, après la libération, tous les jours à l'hôtel Lutetia où revenaient les survivants et où on affichait les noms et les photos des disparus. Et pendant des semaines, j'allais tous les jours à Lutetia voir si par hasard mon père n'était pas survivant. Mais là, s'il avait été gazé, brûlé, ou je ne sais pas comment il est mort. Voilà. Voilà un peu l'histoire de l'origine de la famille et puis un peu la marque identitaire, si vous voulez, de mon nom de famille que j'ai voulu assez rapidement transformer.
Zehn Brüder sind mir gewesen, haben mir gehandelt mit Wein. Einer ist von uns gestorben, sind mir geblieben Idel mitten Fiedel, Mäusche mitten Bass, spielt je mir a Liedel, me viert ins in dem Gas. Ei, dei, 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 ei, ei, dei, 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 spielt je mir a Liedel, me viert ins in dem Gas. Ein Brüder bin ich mir geblieben, mit weimen soll ihr weinen, die andere hat men der Harget, sie gedenkt ihr, sei ihr Neimen. Idel mitten Fiedel, Mäusche mitten Bass, hört je mal jetzt Liedel, me viert mich auch zum Gas. Ei, dei, 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 ei, dei, 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 spielt je mir mal jetzt Liedel, me viert mich auch zum Gas.
De naissance, je m'appelle Raymond Samuel. Et puis les événements de la vie m'ont conduit à changer de nom à plusieurs reprises et finalement à m'appeler Raymond Aubrac, légalement depuis le début des années 50. Quand on est dans la résistance et qu'on travaille dans la clandestinité, on a à chaque moment trois identités. On a son identité de naissance, on a des faux papiers avec une autre identité et enfin on a un pseudonyme sous lequel on est connu par ses camarades. Et quand j'ai été arrêté par la Gestapo le 21 juin 1943, avec Jean Moulin, les Allemands ont arrêté Claude Hermelin. Bien, quelque temps après, ils ont trouvé que Claude Hermelin, en réalité, n'était pas Claude Hermelin, mais était François Vallée. Et ils n'ont jamais connu mon identité de naissance, pas plus que la police française. Ça, c'est le point central. Alors, en ce qui concerne le pseudo, j'en ai porté quelques-uns. Il y en a un que j'ai oublié. Il y en a un autre dont je me souvenais il y a quelques jours. Enfin, Aubrac est mon dernier pseudonyme sous lequel j'étais connu par mes camarades. Alors, en début février 44, avec Lucie et notre petit garçon, nous partons en Angleterre. Mais mes parents ont été arrêtés en tant que juifs. Ils ont été arrêtés quelques mois avant et ils ont été déportés. Et naturellement, je ne sais pas où ils sont. Alors le problème se pose en arrivant en Angleterre. Nous convenons de ne pas reprendre notre nom. Nous sommes Monsieur et Madame Samuel, nous serons Monsieur et Madame Aubrac, à cause du fait que mes parents sont arrêtés et que je ne connais pas leur sort.
Commencer par la guerre.
Claude et Jérémy Fazel.
La vraie rupture, c'est la guerre. Mes parents se sont rencontrés en Ouzbékistan. Ils ont fui l'invasion des Russes. Moi, ils m'ont sûrement conçu au fin fond de l'Ouzbékistan. Et je suis né en Pologne. Moi, je suis né dans une ville qui s'appelle Szczecin. Szczecin en polonais, Stettin en allemand. C'est une ville allemande qui a été annexée par la Pologne. Donc, on quitte la Pologne en 1950. Et là, la seule possibilité de quitter la Pologne, c'était de partir en Israël. C'était déjà Israël. Et l'autre truc était aussi, c'est que mes parents ont signé des papiers comme quoi ils devenaient apatrides. Et ça, c'est aussi un élément important parce que jusqu'à l'âge de 11 ans, je crois, je passais mon temps à dire que j'étais polonais, ah non, apatride d'origine polonaise. J'ai été apatride. C'est-à-dire que c'était pas qu'une histoire de nom. J'avais pas de nation. Et donc après Israël, c'est un élément dont on parle jamais non plus, c'est que les conditions de vie étaient extrêmement difficiles en Israël, mais pas que parce qu'il y avait la guerre avec les Arabes, c'est que économiquement c'était quasiment invivable, c'était dur. Et ils ont décidé à ce moment-là, ils avaient de la famille au Canada, de partir au Canada. Et ça a pas pu se faire, il n'y a pas eu le visa. Et mon père a dit qu'il y avait de la famille en France. Et on est donc arrivé en France. Et là j'ai 6 ans, et je me souviens, on arrive à Paris. Donc, je parle français, évidemment. Je parle le yiddish, qui est ma langue maternelle. J'ai parlé le polonais, sûrement. J'ai parlé l'hébreu. J'ai parlé un peu italien, parce qu'on est resté 8 mois en Italie pour attendre un visa. Mais ça, j'ai tout zappé. Donc, ma langue maternelle, la vraie langue maternelle, que je pratique pas à 100%, que je manipule plus à 100%, c'est le yiddish. Et je pense être pas une fin de race, mais c'est quasiment la fin.
Tu parles avec ta mère en yiddish quand même.
Oui, mais avec un vocabulaire qui est... C'est plus le yiddish que mon père pouvait parler. C'est pas un yiddish érudit, c'est un yiddish de la rue.
Et est-ce que vous faites les fêtes juives est-ce que, même sans être pratiquant hein,
nous, notre famille, nos parents ne nous ont pas du tout élevés là-dedans. Mon père était ce qu'on appelle un juif de Kippour. À Kippour, il allait à la synagogue. Il m'a emmené petit, et après, on n'a jamais jeûné, on n'a jamais fait les choses comme ça, et mon père avait toujours dit qu'il avait assez jeûné pendant la guerre, qu'il avait fait Kippour pour toute sa vie. Et alors maintenant, il y a une revendication de nos enfants pour ces fêtes, et nous, on leur dit qu'ils peuvent les faire, mais qu'ils aillent les faire chez les copains, là où les gens savent le faire.
On est... Enfin, moi, je me considère comme athée. Effectivement, j'ai reçu une éducation athée. En même temps, j'entendais mes parents parler yiddish, j'entendais mon grand-père parler yiddish, me raconter son histoire. J'ai une culture. Mon rattachement au judaïsme, il se fait parce que mes grands-parents m'ont transmis par leur langue, leur humour.
L'histoire, beaucoup. Hein.
Par l'histoire, bien l'histoire. Sûr, parce qu'il y a eu un traumatisme gigantesque dans la famille, du côté de mon père et du côté de ma mère également. Moi, je suis cerné de tous côtés. C'est-à-dire que la Shoah, elle était omniprésente. C'est quelque chose dont on parlait. Parfois dont on ne parlait pas, mais c'était quelque chose qui était toujours là.
Mmh.
Alors,
Julien Grassonne-Barbe.
Mon père est arrivé en France en 1960, il avait 15 ans. Il était à bord d'un cargo turc qu'il a transporté, si je ne me trompe pas, de Haïfa en Israël vers Marseille. Il s'appelait alors Marcel Krasselnik. Et ce nom est un nom russe qui signifie teinturier, certainement faisant référence à, au métier, à l'artisanat du premier ancêtre de famille qui vivait dans l'Empire russe et à qui on a attribué ou qui s'est attribué un nom de famille. Je pense que mon père a pas mal complexé quand il est arrivé ici, donc à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Je pense qu'il était le seul Israélien à l'époque. Il avait 15 ans, il parlait pas l'anglais, il parlait pas le français, il parlait le yiddish qui était sa langue maternelle et l'hébreu qu'il avait appris en Israël. Et donc à l'âge de 22 ans, il faisait ses études du côté de Toulouse. Donc il s'est d'abord fait adopter par un grand-oncle qui vivait en France, qui s'appelait Monsieur Barbe, B-A-R-B, qui était un juif roumain converti au catholicisme. Et donc, mon père, en se faisant adopter, s'est fait nommer Krasselnik Barbe. Et puis, on lui a demandé, est-ce que vous voulez franciser votre nom? Et il a accepté, il a proposé Grassen pour Krasselnik et Barbe avec un E pour Barbe, qui n'en avait pas. Et donc, c'est difficile aujourd'hui de remuer ce passé, il met à distance. Mais je sens bien que derrière, il y a quelque chose qui le travaille. Le seul mot vraiment important que j'ai retenu, que j'ai noté, c'est le mot écorché. Je ne voulais plus que l'on écorche mon nom.
L'histoire, c'en est une, est assez longue. Elle commence au lendemain de la guerre.
Alain Veil, dit Didier Veil.
Je pars à l'école, je dois avoir une dizaine d'années, et sur le pas de la porte, mon père me dit, Alain, dès que tu vas arriver à l'école, sache que tu ne t'appelles plus Veil, tu t'appelles Didier, tout le monde est au courant à l'école, tu n'as rien à expliquer à quiconque. Je descends l'escalier un peu époustouflé parce que j'ai pas d'autre explication que ça. Je comprends pas tellement ce qui vient de m'être dit. Je me pose des questions muettes parce que je les ai pas posées à mon père. Je me dis, mais on peut donc changer de nom? Qui détient le nom? Qui dispose de changer de nom? À quel titre? Et puis des questions qui tombent en... dans l'oubli, dont on ne parle plus. Et il se trouve que la vie m'a poussé au sein de mes études de médecine à étudier la psychanalyse et à devenir psychanalyste. Et un jour, sur le divan de mon psychanalyste, qui était Jacques Lacan, cette question silencieuse qui m'était venue pendant quelques secondes en descendant l'escalier, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un patronyme? Qu'est-ce qui fait qu'on peut en changer? Est-ce qu'on peut le reprendre? D'où vient le patronyme? Cette question revient sur le divan. J'y pensais même pas, c'est arrivé comme ça. Et je découvre qu'il y a une sorte de loi non écrite qui fait qu'il y a une voix qui dit « Mais quand même, ton vrai nom s'éveille. »
Votre nom est Émilie Bérébi ou Émilie Thomas?
Écoutez, mon nom d'usage actuellement, celui que j'utilise tout le temps, celui que mes patients connaissent, etc., c'est Bérébi. Pendant longtemps, j'ai porté le nom de Thomas. Je l'utilisais tout le temps, j'ai fait mes études avec ce nom-là, et puis j'ai buté sur quelque chose au cours de mon analyse personnelle. J'ai buté et en fin de compte, j'ai fini par découvrir que mon père avait un extrait de naissance au nom de Bérébi et qu'il avait été inscrit à l'école sous le nom de Lucien Thomas. Et en fait, petit à petit, j'ai essayé de comprendre comment les choses en étaient venues là. Et donc, j'ai construit quelque chose qui peut-être ressemble un peu à un roman, comme on parle de roman familial en psychanalyse. Et j'ai pu établir, en fait, la vérité des choses. Enfin, la vérité, on ne peut pas tout établir, hein, mais en tout cas, j'ai réussi à comprendre ce qui s'était probablement passé. Mon père vivait en Tunisie. Il a été inscrit à l'école. C'était l'école de l'Alliance israélite, au nom de Lucien Thomas. Alors, il y avait un truc très particulier en Tunisie. C'est qu'à partir du, 1850, etc., l'école de l'Alliance israélite est installée en Tunisie. Et ils ont essayé de franciser à une vitesse énorme les Juifs de Tunisie. C'est-à-dire qu'ils interdisaient aux enfants de parler leur langue. Ils les punissaient. Hein. Donc, on a dit à mon père, tu ne dis pas ton nom. Tu t'appelles maintenant Lucien Thomas. Et il disait, je crois que je m'appelle autrement, je ne sais pas. De temps en temps, il y avait le retour du refoulé. Il avait des souvenirs de sa grand-mère qu'il appelait Sioni, qui était, je pense, du judéo-tunisien, quoi. Hein. Et il était bloqué. Il interdisait à ses enfants de dire qui ils étaient. Et j'ai grandi comme ça, voilà. Hein.
Pas Feinzilber. Ça s'appelle. C'est F-A-J-N-Z. Ça s'écrit à la polonaise. Mes parents avaient le désir de poser leurs valises et que tout ça s'arrête. Et ils avaient un désir d'intégration. Pas de s'assimiler, hein, s'intégrer. Et donc ils ont voulu être naturalisés français. Et à ce moment-là, on nous a proposé Fazel. Et je me souviens très bien qu'il y a eu une réunion de famille. Et on s'est dit, mais c'est pas génial, Fazel. Hein. On voudrait peut-être autre chose. Et alors, on a regardé notre nom, on a cherché d'autres abréviations, on a proposé ça, et la préfecture a refusé. C'était Fazel ou rien d'autre.
Alors, Nicolas Pierre, vous êtes sociologue, et vous aviez écrit, il y a maintenant une quinzaine d'années, un livre sur la question du changement de nom. Et vous-même, vous êtes d'origine juive, et votre père, juif polonais, a changé de nom.
Tout à fait. Il n'a pas changé de nom après la guerre. Il a changé de nom quand j'avais 13-14 ans, hein, c'est-à-dire la toute fin des années 50, je crois. Donc je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien. C'était à la faveur d'un changement de lycée. Donc c'était quand même pas dans le même lycée avec les mêmes classes. Mais enfin, je suis passée de Liebstein à La Pierre un beau jour. Voilà. Et il a choisi la pierre, il a traduit en partie. C'est un des procédés les plus classiques des changements de nom.
Alors, la guerre se termine.
Raymond Aubrac.
Au début de 1945, j'apprends le sort de mes parents, qui ont été tués à l'arrivée à Auschwitz. Au moment où j'ai quitté la France en février 1944, ils avaient déjà été assassinés. Mais je ne le savais pas, naturellement. Alors, à ce moment-là, le problème s'est posé. Qu'est-ce qu'on fait avec le nom? Est-ce qu'on reprend Samuel? Est-ce qu'on prend Samuel Aubrac, etc. Les différentes combinaisons possibles. Et nous commettons la grave erreur de consulter nos amis. Ce qui a comme résultat tous les avis contradictoires du monde. Et finalement, nous choisissons de nous appeler Aubrac en grande partie parce que nous ne voulons pas que nos enfants et le choc de changer de nom. Et puis aussi le fait que l'antisémitisme était encore maintenant quelque part, et donc on se protège un peu. Ceci étant, tout le monde sait que je suis juif, tout le monde sait qu'Aubrac est juif. C'est pas nouveau ça, je m'en suis jamais caché.
Et est-ce qu'il y a cette question aussi de l'antisémitisme et l'histoire de votre père finalement, Lucien Finel, qui a fait aussi que vous vouliez plus être... éventuellement identifié comme juif, par peur justement de l'antisémitisme, d'un retour de l'histoire ou
Non, c'était pas ça, je ne me suis jamais caché, puisque j'ai toujours été, depuis mon âge d'adolescent, un combattant de l'antisémitisme. J'ai été membre de la LICA dès la Libération, et d'un tas d'organisations juives. Je suis même encore actuellement, vous voyez, des dizaines d'années après, d'une organisation que j'ai fondée à l'Hôtel de Ville il y a 25 ans, qui s'appelle Judaïsme et Liberté. Et donc, je ne me suis jamais détaché de mes racines, à part l'orthographe de mon nom, mais je ne me suis jamais caché d'être juif. D'ailleurs, je le déclare systématiquement. Et à la presse, et dans les réunions, et dans les organisations, je suis membre du comité directeur du CRIF. Bon, il n'y a qu'un juif qui peut y siéger. Enfin, des juifs. Je ne suis pas un grand religieux, loin de là. Bon, je respecte une fête, c'est le Kippour, c'est la mémoire, c'est la Toussaint, quelque chose comme ça. C'est pour la mémoire de mes parents, c'est pas... Donc, vous voyez, mes racines, je ne les ai jamais perdues. Au contraire, je me suis battu pour que tout ça, ce passé historique, soit sauvegardé, mais avec un nom plus facile à lire et à écrire.
Naturellement, ça a été un problème. Ça a été un problème difficile. Mon père et ma mère, je trouve qu'il y a un petit peu quelques traces d'abandon à ne pas reprendre leur nom. C'est vrai. D'un autre côté, Lucie de son côté et moi du mien, nous avions, j'allais dire illustré, mais c'est pas vrai, nous avions utilisé les noms d'Aubrac pour un certain nombre de fonctions, dont quelques-unes très officielles. Alors, abandonner ses parents d'une part, et puis d'autre part abandonner le nom sous lequel on a fait quand même un certain nombre de choses, c'est très compliqué. Ça a été très compliqué.
Julien Grassenbarbe.
Quand j'étais petit, je questionnais énormément mon père à propos des origines de la famille. Je me rappelle qu'au CE1, on nous avait demandé de réaliser un petit arbre généalogique. Et quand j'avais demandé à mes parents les noms de leurs ancêtres, j'avais trouvé ça extrêmement bizarre parce qu'il y avait des noms d'animaux, il y avait des... mes parents essayaient de traduire les noms yiddish, Leib qui veut dire lion, Hirsch qui veut dire cerf, etc. Et donc, depuis tout petit, je questionne mes parents à propos de l'histoire familiale. Mais malheureusement, mes parents avaient très peu de choses à me dire. Donc, j'ai dû me débrouiller tout seul pour cette quête. Ça a été très enrichissant.
Enfin, à quel moment, vous, ça vous a semblé quelque chose d'important, de retrouver ce nom ?
Je crois que depuis tout petit, j'ai envie de reprendre ce nom, en fait. Parce que ce nom, c'est comme quelque chose d'un peu spectral, quoi. Quelque chose qui est là. C'est étrange de savoir qu'on devrait avoir un autre nom. Et en même temps, on se dit, voilà, on a d'autres vêtements. Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce qu'après tout, il faut pas assumer simplement ce qu'on est, vivre le présent et se dire que c'est pas parce que je ne m'appelle pas Krasselnik que je ne suis pas le fils de le petit-fils de mon grand-père. Attention au lapsus. Et voilà, et dire que bon, bah, Grassenbarbe, c'est une des trajectoires d'un nom qui était certainement autre encore avant. J'ai appris au cours de mes recherches qu'on était des Lévi'im, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire de la tribu de Lévi. Donc certainement qu'il y avait, encore avant de recevoir Krasselnik, dans les villages, la dénomination Lévi pour les hommes de ma famille. Voilà. Donc, quel nom choisir ?
J'ai rencontré un juif de Patagonie. Il va me dire « Comment tu t'appelles ?» Je ne vais pas lui dire « Fazel », ça ne lui parlera pas. Si je lui dis « Feinzilber », il va me dire « Ah, je connais des Feinzilber ». On est civilement des Fazel, mais on est des Feinzilber. Mais pour le reste, la démarche de mon fils, c'en est une autre. Lui, il veut retrouver des racines. Moi, je n'ai pas perdu mes racines.
Votre fils, Jérémy, voudrait...
Mais mon fils, il a besoin de se créer une histoire. Il a besoin de se refaire une histoire. Donc, ce nom n'a pas d'histoire pour lui. Pour rentrer dans le moule, il veut retrouver le nom. Fazel, c'est une plaque d'immatriculation. Mais
je vois plus le nom de famille comme une boussole. Je dirais pas une plaque d'immatriculation parce qu'on n'aime pas trop les matricules, mais je vois ça comme une boussole, c'est-à-dire que on sait d'où on vient et parfois ça nous aide à aller de l'avant. Et moi, je pense qu'on a besoin de passer le relais. Il y a une interruption. J'ai simplement envie de récupérer un nom qui nous a été retiré.
On aurait pu très bien.
Vous auriez pu le garder.
Le garder, il y a plein
vous
de gens.
Vous vous êtes dit, on va s'intégrer, on va porter le nom de Fazel. Mais aujourd'hui, on est en 2011, on n'a plus besoin de s'intégrer. En changeant de nom, en le francisant, c'est terminé. On peut s'appeler Zinedine Zidane et être 100% français. Et je peux m'appeler Jérémy Fainzilber et non plus Jérémy Fazel et être 100% français. On a un président qui s'appelle Sarkozy. Oui, donc je pense que ça n'a plus aucun intérêt de s'appeler Fazel, de garder ce nom francisé. Voilà, moi j'ai regardé les papiers de la famille. Parce non, que moi je me suis intéressé à toutes ces choses. En fait, depuis très jeune, j'ai toujours posé des questions à mes grands-parents, j'ai toujours été curieux. Et ils m'ont parlé de leur histoire très tôt. Et tout ce qui était lié à la Shoah, à la guerre, ça m'a très très vite impressionné, bouleversé. Et l'histoire de ce nom de famille, c'est aussi quelque chose que je connais depuis toujours. Et pour moi, ça a toujours été une injustice. Bon bref. Pour toi, le nom de famille, finalement, c'était accessoire, c'était du luxe. Ben moi, aujourd'hui, j'ai le luxe de pouvoir reprendre ce nom de famille. Et moi, je pense que c'est quelque chose dont il ne faut pas se priver. Si aujourd'hui, il y a une petite porte, une petite ouverture...
Alors par contre, je te dois un truc. C'est que moi, j'ai toujours pensé qu'on était Fainzilber. Ouais. Et j'ai vu mes trucs de l'école, où je suis là-bas. Là-bas, il y a une photo de moi. Je suis Fainzilber. Et ça s'écrivait avec un G.
Les parents, ils changeaient de nom.
Nicole Lapierre.
Souvent pour leurs propres enfants, les décisions de changement de nom venaient toujours quand il y avait des enfants. Mais en même temps, ils baignaient complètement dans un univers yiddish ou au moins dans un univers juif. Ils avaient encore un accent yiddish ou polonais selon les familles et les milieux. Bref, pour ces enfants et éventuellement pour leurs petits-enfants, qui eux ont grandi, sont nés dans la société française, ils ont grandi, ont fait des études, et à qui souvent peu de choses de l'histoire et du monde juif a été transmis, ils se sont au fond juifs sans mode d'emploi, et ce nom, qui pour les parents n'avait pas tellement d'importance, c'était pas ça qui les faisait juifs, devient tout d'un coup le marqueur, le repère, et on arrive à des situations étranges, c'est-à-dire que dans certaines familles, les parents disaient « Je veux plus que mes enfants portent ce nom, qui les désigne. » Et moi, j'ai entendu des enfants me dire, en m'appelant, je dis n'importe quoi, en m'appelant Dupont, il m'arrive d'entendre des propos antisémites insupportables que je n'entendrais pas si je m'appelais, je ne sais pas, Goldstein. Donc je préfère avoir un nom, y compris pour annoncer « Je suis juif » pour éviter les remarques antisémites. Donc les choses sont complètement inverses, mais... La situation aussi est totalement inverse. On n'est plus au lendemain de la guerre. On est en plus dans un moment plus général qui ne concerne pas que les Juifs, qui est un peu de reviviscence identitaire, d'intérêt pour les identités, les racines, les mémoires, etc. Donc, ces noms deviennent tout d'un coup chargés d'une valeur symbolique qu'ils n'avaient pas auparavant.
Céline Masson. Le collectif a été créé au moment où nous commencions l'organisation du colloque qui s'appelle aussi La Force du Nom. Et pour faire ce colloque, j'avais souhaité entendre, moi, des familles qui avaient changé de nom. Donc je me suis dit, je vais faire un petit film. Donc j'ai réuni des familles. Et donc c'est en faisant ce film que j'ai rencontré ces gens et que j'ai commencé à entendre leur douleur, pour certains, de ne pas porter leur nom d'origine, entre guillemets d'origine, et de ne pas pouvoir revenir à leur nom. Donc c'est vrai que je me suis dit surtout le motif de rejet m'a quand même agacée, parce qu'une jurisprudence donc, ne permet pas à la fois le retour au nom pour, premier motif, l'immutabilité du nom, donc les noms doivent être constants, et le deuxième motif, assez douteux, ce qui est la consonance étrangère. On ne peut pas revenir à un nom qui a une consonance étrangère. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Qu'est-ce qui traîne encore dans les conseils d'État et dans les lois et dans les...
Ce sur quoi vous militez, c'est que ce nom juif, en fait, ne soit pas un nom d'usage, mais que ça soit le vrai nom.
En fait, quel sens de se dire pseudo? Vous imaginez que quand vous allez à la poste, on ne vous demande pas votre pseudo, on vous demande votre carte d'identité. Quand vous êtes arrêté dans la rue, on demande votre carte d'identité. Quand vous passez les frontières et vous voyagez, on vous demande votre carte d'identité. Donc ce nom changé revient à chaque fois puisqu'il est sur les papiers d'identité. Je trouve ça assez humiliant qu'un vrai nom devienne un pseudo. Surtout ces noms-là, qui ont été des noms malmenés quand même, puisqu'on, quand on était sur des listes, on savait où on passait. Et donc, je crois qu'il y a une dette envers ces personnes qui ont dû changer de nom, non pas pour s'amuser, ni comme ça par fantaisie, mais parce qu'ils étaient menacés de mort. Donc je trouve assez
fort de la part d'un pays des droits de l'homme, de revendications pour l'égalité, etc., de ne pas accorder à des personnes qui veulent revenir à un nom qui a été changé pour ces motifs-là, je précise quand même, hein, c'est pour ces arguments-là, de la protection du nom et du traumatisme de la Shoah, de ne pas leur redonner ce qu'ils ont perdu, ou du moins ce qu'on leur a confisqué. Pour ceux qui le veulent, je dis bien, ceux qui le veulent, on n'oblige personne à revenir au nom, bien au contraire, je trouve que si quelqu'un vit bien avec son nom. Mais lorsqu'on a cette douleur, parce que n'oubliez pas, ces gens qui veulent revenir à leur nom, souvent, pas toujours, sont des personnes qui ont vu leur nom changer à l'adolescence. Moi, je suis née maçon, ça me pose moins de problèmes. Mais ceux qui ont vu à 8 ans, 10 ans, 12 ans, vous imaginez quand même à cet âge, mais qu'est-ce qui se passe, quoi?
J'ai demandé...
Alain Veil, dit Didier Veil.
Il y a 30 ans, à retrouver le nom de Veil. J'ai fait une démarche auprès du Conseil d'État, auquel il a été répondu négativement, sans autre explication que de me dire « Votre père est un citoyen français qui va dans le sens des lois, et vous, vous allez en sens contraire des lois. » J'ai pas eu d'autres justifications. J'ai refait une demande 10 ans après, même scénario. J'ai refait une séance encore 5 ans après, même chose. Et cette fois, on me dit, c'est même plus la peine de nous poser un dossier, on ne lira plus vos dossiers. L'élément supplémentaire qu'on me dit, c'est qu'en somme, Didier est un sens qui, un mot qui va quand même dans le sens de la francisation, alors que le mot Veil est une appartenance étrangère qui va pas dans le sens de la francisation des noms. C'était la politique du Conseil d'État à l'époque. Donc, à ce moment-là, je comprends que c'est râpé et je me dis, je veux pas laisser tomber cette affaire. Et donc je décide de publier sous le nom d'un pseudonyme, c'est-à-dire sous le nom Didier Veil, avec un tiret. Mais c'est un pseudonyme. Donc je décide, et ça c'est une espèce de décision que je prends sur le divan de mon bon maître Lacan, qui avait suivi un peu mes pérégrinations, et je dis à la fin de la séance, ben, je crois que j'ai pas d'autre solution, je vais me faire appeler Didier Veil, personne d'autre me rendra ce nom. Et Lacan me dit, oui, mais il s'agit de le faire savoir maintenant. Et puis, j'avais abandonné l'idée de reprendre le nom jusqu'à la rencontre avec Céline Masson. Elle a fait un film sur cette question, que vous connaissez peut-être. Et donc, il y a eu une manifestation au Musée d'Art Juif à Paris. Après, 2 mois après, une manifestation à Jérusalem, à la faculté. Sous un mouvement qui s'appelait La Force du Nom, il y a eu des échos, quelques échos dans la presse, et c'est peut-être, mais ce n'est pas sûr, en rapport avec ces échos dans la presse, que le Conseil d'État a réalisé, a infléchi un peu sa position, a évolué un peu, et puis, ben voilà, surprise, il y a quelques mois, réponse par la poste, votre dossier est accepté sans autre explication. Voilà un petit peu l'histoire sommairement racontée d'un nom perdu et retrouvé après bien des avanies. Et d'ailleurs maintenant, je vais aller demain faire mes nouveaux papiers d'identité et ça va être un casse-tête parce que j'aurais aimé qu'il me donne officiellement Didier Veil. Alors là, maintenant, c'est Veil, mais je peux pas nier le fait que je suis dans mon milieu professionnel, connu comme par mes patients. Par... Donc, je vais garder le pseudonyme. Je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais faire des papiers d'identité. Alain Veil, dit Didier Veil. Paradoxalement.
Nicole Lapierre, vous avez songé un moment à reprendre le premier nom de votre père ?
Non, jamais. Non, jamais. Mais en même temps, j'ai fait une recherche pendant plusieurs années. J'ai publié ce livre. Donc, c'était quand même une autre façon pour moi qui me convenait mieux de revenir sur cette histoire qui était restée un peu ce changement de nom à 12-13 ans, sans beaucoup d'explications. M'avait laissé comme un goût d'inachevé. Donc, voilà. Faire une recherche était pour moi une bonne façon d'expliciter les choses. Et en même temps, en faisant cette recherche, j'ai pris conscience du poids et de l'emprise des noms. Bien sûr, les noms sont importants. Ils sont importants puisque ce sont des histoires, des origines, des filiations, qu'on peut y être attaché. La plupart des gens sont attachés à leur nom. Ils n'aiment pas qu'on les déforme, qu'on oublie une lettre, un accent, etc. Ils sont très sensibles. Là, il y a une grande sensibilité au nom. Mais en même temps, il ne faut pas y attacher plus d'abord. C'est un signe d'identité, ce n'est pas l'identité elle-même. D'ailleurs, personne n'a une seule identité, nous avons des identités multiples. Donc il ne faut pas non plus être prisonnier, à mon sens, de cette histoire des noms. D'ailleurs, moi je dis souvent, l'expression « ne se connaître que de noms », au fond c'est se connaître bien peu. Et c'est vrai, c'est se connaître bien peu, la personne n'est pas dans son nom.
Je me suis dit, je vais faire une démarche juridique. Je vais dire, voilà, mon père, j'ai trouvé, mon père portait un faux nom, je veux retrouver le nom de la famille, un nom qui remonte à des générations. J'ai fait donc une démarche juridique et en fait, j'ai pas obtenu gain de cause. On m'a dit que de toute façon, j'étais amenée, moi, puisque j'étais une femme, à changer de nom. Donc, ça n'avait pas d'importance. Donc mon frère a essayé aussi, ça a été compliqué, on est 5, et ma sœur est mariée, elle a des enfants, ça pose pas réellement un problème, je pense que le fait de le savoir c'est déjà important, une autre sœur aussi pareil, mais j'ai deux frères qui ont des enfants, et leurs enfants normalement, s'il n'y avait pas eu ce problème, ils devraient s'appeler Bérébi quoi, Donc c'est quand même un problème très important pour moi et très sensible.
Et c'est vrai que moi, j'ai parlé de cette histoire à mon grand-père du temps de son vivant. Et il comprenait pas pourquoi moi j'aurais aimé reprendre ce nom. Parce que pour lui, Feinzilber, c'était à mon avis plus un fardeau qu'autre chose. Donc il comprenait pas pourquoi moi j'irais me compliquer la tâche, la vie à reprendre son nom, Feinzilber, alors que Fazel, effectivement, c'est facile à prononcer. On ne sait pas trop d'où ça vient, ça passe un peu ni vu ni connu, et on ne cherchera aucune oise.
Mais ce qui est intéressant dans la démarche de Jérémy, c'est qu'il a convoqué ses cousins, qui s'appellent Fazel, et ils sont tous d'accord.
Voilà, j'ai le soutien de la famille, pas tout le monde, mais j'ai le soutien d'une bonne partie de la famille, surtout ceux qui sont de ma génération.
J'ai accéléré les démarches l'année dernière, en allant au tribunal, en cherchant des papiers, en essayant de rencontrer Céline Masson, et après, Nathalie Felsenschwalb, l'avocate du collectif, qui voulait m'aider donc dans la procédure que j'ai mis là en stand-by, puisque j'ai reparlé de ça avec mon père et que j'ai cru noter que quelque part, ça le perturbait un petit peu. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et avec mes sœurs aussi. Je ne suis plus le fils de mon père, et je ne suis plus le frère de mes sœurs. Et je redeviens le petit-fils de mon grand-père. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi cette histoire ? Et en même temps, ça me rapproche de l'ancestralité, de l'histoire de mes grands-parents, de notre rapport à l'Europe orientale, à l'ashkénazité, je sais pas si ça peut se dire. La Yiddishkeit, comme ils disent. Voilà. Donc c'est les deux à la fois, du coup. Je laisse faire un petit peu pour le moment, je prends du recul. Et puis je me dis, y a quelque chose qui va se rallumer à un moment donné. Et puis, voilà. Il faut avoir du courage, en tout cas, dans un sens ou dans l'autre, pour assumer le présent tel qu'il est, et essayer de faire en sorte que ça ne coupe aucun lien avec les gens de ma famille proche, quoi. C'est ça, je crois que c'est ce qu'il faut essayer de gérer, quoi. Et peut-être qu'il faut que je choisisse d'accepter qu'on ait Grassenbarb et qu'on ait aussi... Lévi, et qu'on est aussi Krasselnik, et qu'on est aussi peut-être autre chose encore, je sais pas.
t'inquiéterais, petite? Sais-tu que le Nazaréen n'a fait rien, d'un à rien? Et s'il est fils de Dieu, comme vous dites, alors...
Dieu est juif. Je fais Dieu.
Merci à Raymond Aubrac, Émilie Bérébi, Alain Veil, dit Didier Veil, Jérémy et Claude Fazel, Lucien Finel, Julien Grassonne-Barbe, Nicole Lapierre et Céline Masson. Prise de son, Laurent César. Mixage, Philippe Palares. Du changement de nom au renom, un documentaire de Séverine Liattard et Séverine Cassard.
A été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 septembre 2011 dans La Fabrique de l'Histoire.